C'est pas grave, madame, vraiment.
Tout de même.
C'est pas ce qu'est une rixe.
Mais si, je sais, c'est une dispute entre voyous.
Pour entrer, il faut faire le tour.
Théâtre à l'oreille. Émission mensuelle de découverte du répertoire contemporain, présentée par la troupe théâtrale sonore Des Voix dans la nuit. Bonjour à tous. Ce mois-ci, dans Théâtre à l'oreille, nous partons pour l'Italie. Vous allez entendre trois extraits de pièces du répertoire italien. Nous avons choisi l'auteur Laura Forti pour sa pièce Pessa, l'auteur Fausto Paravidino pour sa pièce Deux frères, et vous entendrez également un extrait de la pièce de Dario Fo, Faut pas payer. Née en 1966 à Florence, Laura Forti mène de front un travail d'auteur, de traductrice, de comédienne et de metteuse en scène. Diplômée en lettres modernes et en histoire du théâtre, Laura a passé trois années à l'Académie nationale d'art dramatique Silvio d'Arnico de Rome comme actrice et auteur. Elle collabore avec la compagnie centrale Produzioni, dirigée par Théo Paoli. Son théâtre est joué en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en France, où notamment sa pièce Pessa, Passaggio, prix Hugo Betti 2001, a remporté un franc succès au théâtre de la ville Les Abbesses en 2004 dans une mise en scène de Lucas Emleb. Pessa ainsi que deux autres textes sont publiés chez Actes Sud Papier. On y retrouve une femme au cœur fragile et qui fume en cachette. Sa fille aînée, elle-même mère pour le moins négligente et qui tente d'oublier le gris de sa vie dans le cognac. La fille cadette qui cherche ailleurs ce qu'elle ne s'est trouvé nulle part. Et le fils qui tente de croire et de faire croire à son pouvoir de séduction. Une famille presque normale, réunie pour célébrer la Pâque juive, laquelle tombe justement le jour anniversaire du petit-fils. Scène 1. Faire disparaître les miettes. Un chant religieux juif caractéristique de Pessa. La mère se déplace dans la cuisine, une menorah à la main. Chandelier traditionnel à 7 ou 9 branches. Elle est en train d'accomplir le rite d'élimination des miettes de pain. Elle pose le chandelier sur la table, brûle quelques miettes tout en récitant une prière. Elle regarde autour d'elle, soupire. Elle prend une cigarette et l'allume au chandelier. Bruit de clé dans la porte. Elle éteint la cigarette et la cache dans la poche de son tablier. Elle se précipite sur le fauteuil à bascule situé à droite de la scène et se met à feuilleter un gros album de photos. Entre Nora. Elle est essoufflée et de mauvaise humeur. Elle regarde sa mère un instant, puis jette le sac de course sur la table. La mère.
Tu m'as fait peur.
Nora.
Désolée d'être en retard. La voiture ne démarrait pas.
Quelle heure est-il ?
Presque 6 heures.
Je n'ai pas vu le temps passer. Je m'étais mise à regarder les photos.
La mère continue à feuilleter l'album.
J'ai fait des courses pour ce soir. Je crois que j'ai tout.
Elle remarque le chandelier sur la table. La mère continue à feuilleter l'album.
Tiens, voilà les médicaments que tu m'avais demandé. Mais tu n'as pas encore allumé le four. Tu devais allumer ici, maman, il y a 1 heure.
Je regardais les photos.
Le dîner ne sera jamais prêt.
Je ne me souvenais pas de ce tailleur.
Nora ouvre le réfrigérateur.
Merde, c'est pas vrai, c'est de nouveau plein de glace.
Tu étais une jolie petite fille, jusqu'à 3 ans. Qui pourrait deviner que c'est toi, là ?
Tu dois le dégivrer, tu as un seau ?
Tu as pas mal grossi, tu sais, Nora. Surtout du visage, tu es bouffie. Tu continues la gymnastique ?
Le saut, maman.
Laisse, je m'en occuperai.
Il faudra que tu le fasses faire tôt ou tard.
Je me suis toujours occupée moi-même de mon intérieur.
Nora gratte la glace avec un couteau.
Il fait nuit dehors.
Papa rentre quand ?
Demain. Heureusement qu'on me le raccompagne. Je n'étais pas tranquille à l'idée qu'il voyage seul. Il a vu un autre médecin. Il paraît qu'ils ont trouvé un nouveau traitement pour le Parkinson. Chaque jour, ils inventent autre chose, mais rien ne marche. Quelle heure peut-il bien être ?
Presque 6 heures.
Tu es arrivé tard.
Je te l'ai dit. La voiture ne démarrait pas, je l'ai laissée chez le garagiste.
Fais attention avec ce couteau.
Nino l'a sûrement trafiqué.
On ne peut pas se permettre un nouveau frigo.
Il touche à tout.
Tu es venue en voiture ?
Oui, maman.
Nora gratte la glace.
Et mon Nino, quand vient-il ?
Il a dit 8 heures, ce qui veut dire au plus tôt 9 heures. Enfin, si monsieur daigne venir.
J'ai demandé à Bêta de lui acheter un gâteau.
Ce n'était pas la peine à son âge.
16 ans, ce n'est pas grand.
Ce n'est plus un enfant.
Comment ça va avec lui?
L'homme invisible. Quand je pars le matin, il dort. Quand je rentre, il est au travail. Enfin, travail. Façon de parler. Dans cet atelier à trafiquer des voitures et Dieu seul sait quoi d'autre. Il rentre à la maison pour dîner, mange, ne dit pas un mot, prend sa mobilette et s'en va.
Et où va-t-il?
Il ne me le dit pas, bien évidemment. Il ne gaspille pas sa salive.
Tu devrais le lui demander.
Je viens de te dire qu'il ne me parle pas. Top secret sur sa vie. Des monosyllabes qu'il faut interpréter. Les seules choses qu'il prononce de façon intelligible sont « Donne-moi de l'argent, je sors et va te faire foutre ».
Nora,
c'est la vérité.
Je n'ai jamais permis que mes enfants me traitent comme ça. Quand ton frère a essayé, je lui ai frotté la bouche au savon.
Nora a fini de nettoyer le réfrigérateur.
Voilà, c'est fait. Comme ça, au moins, c'est propre.
Toi non plus. Tu ne plaisantes pas avec les gros mots. Je t'ai entendu.
C'est passager.
Les parents devraient donner l'exemple.
Tu dois demander à quelqu'un de finir le dégivrage.
Et à qui? Ton père, avec son Parkinson, ne peut même plus tenir une fourchette.
Il n'y avait pas la Péruvienne qui venait?
Elle ne vient plus. Je ne peux pas me le permettre.
Tu le pourrais parfaitement. Ce qu'il y a, c'est que tu veux tout faire toute seule.
Et puis, elle n'était pas soigneuse. Elle faisait un thé atroce.
Cette femme était une sainte. Une sainte non-juive, certes.
Non, elle n'était pas juive.
Elle continue à regarder les photos pendant que Nora, de dos, commence à ranger le réfrigérateur.
Le voilà, mon Nino. Quel amour quand il venait me voir. Il me bombardait de questions. « Grand-mère, tu me racontes comment c'était pendant la guerre ?» Il voulait connaître tous les détails. Quand j'étais avec les partisans, quand on mangeait l'herbe des prés avec du vinaigre.
Nora lève les yeux au ciel, genre c'est une vieille histoire.
Je ne comprends pas comment il a pu changer à ce point.
Ça, je le mets où?
Je n'aime pas la margarine. Pourquoi tu en as acheté?
Vous consommez trop de beurre.
On voit bien que tu n'as pas connu la faim.
Vous finirez par exploser.
J'ai suffisamment souffert comme ça durant mon existence.
Elle regarde la photo.
Il passait des heures à m'écouter. Naturellement, ça ne veut rien dire. Toi aussi, tu étais un amour.
Les gens changent. Ça s'appelle adaptation ou croissance. Ça sert à survivre.
À t'entendre, on croirait que les enfants s'amusent à grandir pour contrarier leurs parents.
Ce n'est pas ce que tu penses?
Je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus de douceur. Tu le traites d'une façon... Tu es dure, Nora.
Ce n'est pas toi qui vis avec lui. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir un fils qui arrête l'école et qui passe ses journées à traîner.
C'est un crève-cœur, je sais. Une grande déception. L'amour, parfois, c'est une malédiction.
Pitié, ne prends pas cette voix.
Quelle voix?
Cette voix de mélo. Et puis le sous-texte. Nous, les enfants, t'avons déçu.
Ce n'est pas ce que je voulais dire.
On aurait cru.
Oh, ce que tu es susceptible.
Je me tiens sur mes gardes.
Je suis ta mère et tu me traites en ennemie.
Maman, j'essaie d'aller vers toi. Évitons de nous disputer. C'est l'anniversaire de Nino. On se retrouve, on mange le rôti, on trinque et chacun retourne à sa vie. Une trêve, maman, d'accord?
Je ne suis pas en guerre. Souviens-toi, c'est moi qui l'ai voulu, cette fête. Tu n'y pensais même pas.
Nora sort un reste du réfrigérateur, s'assied à la table et commence à manger.
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu manges avant le dîner? Et après, tu t'étonnes de grossir. Si tu ne te contrôles pas un peu...
Et ces bougies allumées?
Je cherchais les miettes.
Quelles miettes?
Aujourd'hui, on ne peut pas garder de pain au levain à la maison. Pas de farine non plus.
Ah?
Montrant une assiette recouverte d'un torchon sur la table.
Et ça?
N'y touche pas!
Oh, toutes mes excuses!
Nora mange bruyamment.
Tu sais que c'est Pessa aujourd'hui?
Bêta me l'a dit.
Tu sais au moins ce que c'est, Pessa.
La Pâque juive, maman. En moi aussi coule le sang du peuple élu.
Je ne comprends pas ce charabia. Bêta voulait faire le céder.
Le quoi?
Le dîner de Pâques. Tu vois que tu ne le sais pas.
Navré. Dans le manuel illustré « Le judaïsme de A à Z », j'en suis restée à la lettre A.
Quand j'étais petite, le céder était la fête des enfants. On se réunissait tous autour de la table dressée, avec la nappe la plus blanche, une splendeur. Comme j'étais la benjamine, c'est moi qui posais les questions au grand-père. En quoi ce soir est-il différent des autres soirs? Tu sais pourquoi ce soir est différent des autres soirs?
Nora fait non de la tête.
Parce que c'est la fin de l'asservissement à l'Égypte. Mon pauvre grand-père, quand je pense à la mort qu'il a eue...
Nora continue à manger.
Tu sais ce que ça veut dire, céder?
Non, maman, évidemment non.
Ça veut dire ordre, parce qu'il y a un ordre à suivre. D'abord, on boit la première coupe de vin, ensuite, on mange le pain azim, et puis viennent les questions et les chansons. Tous ensemble, de l'ordre. La famille avait un sens en ce temps-là.
On fête la Pâque juive ou l'anniversaire de Nino?
Comment ça?
Je vais devoir jeter le jambon que j'ai acheté au supermarché en récitant une formule rituelle de purification? Ou bien pouvons-nous laisser reposer le veau dans le lait de la mer?
Tu recommences avec ton charabia. Quel mal y a-t-il à fêter les deux?
Ça me semble tout simplement absurde, fêter la Pâque juive alors qu'on ne l'a jamais fait.
Votre père n'est pas juif.
Papa s'en est toujours foutu. Le spirituel ne rentre pas dans son champ d'intérêt.
C'est toi qui le dis.
Il croit que c'est quelque chose qui se boit.
Tu ne sais pas ce que sa famille m'a fait endurer.
Nous y revoilà.
Un mariage mixte à l'époque. C'est comme si aujourd'hui tu épousais une négresse.
Noir. On dit noir, maman. C'est plus politiquement correct.
Plus quoi?
Ce sont les racistes qui disent nègre. Et nous, les juifs, sommes tolérants, n'est-ce pas?
Oui, bon, tu m'as comprise. Ils me traitaient comme une étrangère. L'hostilité, les regards méfiants.
Et comme ça, tout d'un coup, nous voilà juifs pratiquants. Dommage que je ne sache pas un mot d'hébreu, que Giorgio ne soit pas circoncis et que Beta... Mais qu'est-ce que je raconte? Beta est le docteur ex-judaïsme de la famille.
Que d'histoire, Nora! C'est juste une fête. Une belle fête, tous ensemble.
Les dernières fêtes, tous ensemble, ont tourné au désastre.
Je pensais que pour Nino, ça pouvait être important. Toujours seul, élevé, sans valeur, sans père.
Il a un père.
Un père qui n'est jamais là.
En tout cas, Giacomo ne l'a jamais battu. Et moi, j'ai toujours été là.
C'est vrai, tu as fait de ton mieux. Mais un père attentif, c'est autre chose. Il l'a appelé aujourd'hui?
Nora se tait.
Penses-tu? Pas même le jour de son anniversaire. Et ensuite, tu t'étonnes si... De toute façon, l'idée de fêter la Pâque juive vient de ta sœur. Tu sais qu'elle traverse un moment difficile.
Dis-moi plutôt, quand Beta ne traverse pas un moment difficile?
Après qu'elle a fait ce qu'elle a fait, il n'y a pas de quoi rire.
Elle continue à regarder les photos.
Là, tu n'es pas tellement à ton avantage. Tu étais déjà bouffie. Je ne lui ai pas parlé aujourd'hui. J'ai laissé sonner le téléphone pendant des heures, mais elle n'était pas là. Tu as essayé de l'appeler?
Oui, maman. Aucune réponse sur le front des suicides. Mais elle m'a laissé un message l'autre jour. Elle parlait d'un truc qu'elle est en train d'écrire.
Le roman, oui. Elle reconstitue l'histoire de ma famille. Ceux qui ont péri à Auschwitz.
Excellent sujet pour une fille qui a tenté de se suicider voilà 6 mois.
Beta est comme dévorée de l'intérieur. Elle est toujours si triste, tellement anxieuse. Déjà, petite, elle portait tout le poids du monde sur ses épaules.
Je suppose que c'est typiquement juif.
Je te souviens quand elle écrivait. Des après-midi entiers, les gitans, les indiens, chaque cause était la sienne.
Si seulement elle les finissait, ces romans.
C'est vrai. Elle n'a aucun sens pratique. Elle vit dans son monde.
Giorgio est pareil. Ce sont des artistes.
Nora se lève, remet les restes dans le réfrigérateur.
Beta est différente de Giorgio. Giorgio est un crétin.
Évidemment, c'est un garçon. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire dans ce matriarcat?
Fausto Paravidino, né à Gênes le 15 juin 1976, est un homme de théâtre italien aux diverses casquettes, à la fois dramaturge, comédien, metteur en scène, cinéaste et traducteur. Dans la pièce « Deux frères », nous retrouvons Boris Élève, qui partage un appartement avec une jeune fille, Erika, différente dans ses habitudes et par sa mentalité. Les deux frères sont très liés, et entretiennent des relations suivies avec leurs parents grâce à une correspondance complètement originale. Bien que vivant seuls, ils ont tendance à reproduire les mécanismes et les névroses de leur milieu d'origine, incapables de couper le cordon qui les relie encore à leur famille. Tout le contraire d'Erika, personnage vraiment seul, sans aucune attache, une sorte d'orpheline comparée aux deux frères, elle vit de façon plus simple ses émotions et ses décisions. Scène 1, 21 septembre 1998, 0h43. Erika entre à moitié nue. Elle s'assied à la table. Elle écrit. Lev entre, enveloppé dans un drap. Il s'arrête à la porte. Il la regarde. Lev.
Oh, t'écris quoi ? Un truc méchant, c'est ça ?
Erika déchire le papier.
J'ai peur. T'écrivais quoi ?
Erika.
Je ne suis pas sûre.
Fais-moi lire.
Tu ressens quoi pour moi, toi ?
Comment ça ?
Tu es amoureux de moi ?
Non.
J'avais peur que tu le sois.
Et toi ?
Je t'affectionne. Tu me plais, j'ai de l'affection.
Bon, alors ?
Je veux pas que tu souffres.
Ah ben moi non plus.
Je ne veux plus faire l'amour avec toi.
Là, je souffre.
Je sais, mais tu comprends, je ne peux pas t'aimer.
Non, je ne comprends pas.
Écoute, c'est difficile pour moi d'en parler.
Et pour moi de l'entendre.
Tu me détestes.
Non.
Je t'aime bien.
Moi aussi.
Mais je ne peux pas faire l'amour avec toi.
Tu l'as déjà dit.
Tu souffres ?
Oui.
Ça passera.
C'est sûr que je ne vais pas en mourir.
Excuse-moi.
Tu penses ?
Je ne t'aime pas.
Erika sort. Lev reste. Scène 2, 7h58. Lev est assis à table, toujours emmitouflé dans son drap. Il fixe du regard la table devant lui. Boris entre. Boris.
Comment ça va ?
Bien.
Il y a un problème ?
Non, pourquoi ?
Faut faire les courses.
Maintenant ?
Un de ces quatre. On mange quoi à midi, t'y as pensé ?
Je ne pense qu'à ça.
Boris le regarde.
T'as un problème ?
Faut faire les courses. Écoute, je voudrais te parler.
Et tu fais quoi, là ?
On a reçu une lettre de maman hier.
C'est de ça que tu voulais me parler ?
Non, c'est à propos d'Erika.
Et qu'est-ce qu'elle dit ?
Je ne l'ai pas encore lue, on répondra plus tard. Je crois qu'on devrait établir quelques règles de vie commune avec Erika.
Je suis d'accord.
Vraiment ?
Oui.
Scène 8, 17h07. Lev et Boris mettent une cassette dans le magnétophone. Voix de la maman.
Votre dernière lettre nous a fait tellement plaisir. Nous sommes si contents que le travail de Lev se passe bien. C'est vrai que Boris est devenu un cuisinier accompli ? Papa est si fier de vous. On se réjouit de faire un tour dans la nouvelle voiture de Lev et de goûter une des tartes de Boris.
Elle nous a cru ?
Non.
Ici, bien des choses ont changé. C'est l'automne. Votre petite sœur ressemble à une princesse. Le chat a fini sa mue. Il est devenu bien gros. On aimerait tellement avoir une photo récente de vous deux. Celles que nous avons sont si vieilles maintenant. Papa et moi, on a décidé de retourner sur les bords du fleuve où vous jouiez petit. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit, mais on n'a jamais le temps. Gros bisous, maman.
Stop, éjecte.
C'est quoi cette histoire de chat ?
Tu sais, ils ont adopté un chat, elle nous l'avait dit.
Notre sœur est allergique.
Ah oui ?
Au poil. Elle est allergique aux poils de chat.
Ça doit être un chien.
Peut-être. On lui écrit quoi ?
On parle d'Erika ?
Vaut mieux pas.
Pas du tout ?
Non, je dirais. Tu pourrais lui donner une recette pour faire une tarte.
Ça lui ferait plaisir.
Tiens, le journal. Il doit y avoir une recette dans le journal.
On va l'acheter. Oui, comme ça, on lui envoie une recette. Parle-lui de la voiture.
On lui en a déjà parlé la dernière fois.
Elle a aimé, elle nous a cru. On peut en rajouter.
Elle ne nous a pas cru. Et puis, qu'est-ce que tu veux rajouter ?
Je sais pas. Qu'elle consomme beaucoup, mais qu'elle est très confortable et qu'elle est toute blanche.
Déjà dit.
Posons-lui des questions sur elle, sur papa, sur l'automne.
Qu'est-ce que tu t'en fous de l'automne ?
Ça me manque un peu.
L'automne te manque ? Tout ce vent ? On est mieux ici, il fait plus chaud.
Disons-lui qu'il fait plus chaud.
Elle pensera que nous voulons lui faire envie.
Mais elle aime l'automne, maman.
De toute façon, elle aime tout.
Et pourquoi on irait pas la voir ?
Avec notre Mercedes blanche. Impossible.
Alors en train, peut-être ?
Impossible.
Scène 9. 24 septembre 1998, 14h10.
Voyons voir si on peut rester calme en faisant les comptes.
Pour moi, pas de soucis.
Rester calme, c'est ton problème, ça.
Je ne relève pas. Du 13 au 23 septembre, 12,10 € par personne.
Pas de soucis.
La bière et le café sont compris ?
Tout est compris.
Enlève la bière et le café.
On devra refaire les comptes.
Mais on peut pas faire ça normalement pour une fois ?
Je bois ni café ni bière. Je paye ni café ni bière.
Écoute-moi bien, ça fera une différence de 3,05 € en tout. Soit 1 € et des poussières par personne.
Je ne paie pas.
On peut pas refaire les comptes.
J'ai pas à les payer.
Je paierai sa part.
Mais pourquoi ?
Pour toi, ça fera 11,10 €. Ça te va ?
Ah mais non, pas besoin de ton aumône, c'est pas ça le problème.
Je te fais ni l'aumône ni la charité. Je paye, point.
T'as l'air de me faire une fleur, mais moi je le bois pas ton café.
Je sais, je paye, point final. Où est le problème ? Ça te dérange ?
Question de principe.
Tu comprends pas, j'achète ton silence. Je me fous des principes. Je paye pour réduire cette discussion à néant.
Tu manges un tas de trucs bio qu'on n'aime pas.
Je les ai toujours payés à part.
Elle les a toujours payés à part.
Je disais juste ça pour dire que tout le monde est différent, mais...
Tais-toi, je veux réduire cette discussion à néant.
Mais t'es qui pour décider la conversation ?
Bordel de merde, je reste calme. Et ça me coûte quand même de l'énergie et 2 euros.
Je m'en fous de tes 2 euros. T'as pas à décider, question de principe.
N'élève pas la voix, je suis en train de m'énerver très très fort.
Pas ma faute si tu sais pas te contrôler en faisant les comptes.
Tais-toi.
T'es pas capable de retirer la bière et le café des comptes ? Tu veux me faire encaisser le fait que tu payes ma part ? Mais ma part n'existe pas, j'ai rien consommé.
Vas-y, il s'agit de 2 bouteilles et de 250 grammes de café.
La quantité n'a rien à voir.
La quantité n'a rien à voir, mais arrête de hurler.
T'as pas à décider de mes hurlements.
Arrête de hurler.
Je te demande seulement de refaire les comptes.
Ça suffit.
Il essaie de l'empêcher de hurler en lui mettant la main sur la bouche. Erika se dégage et ça l'amuse.
Je hurle, je hurle, je hurle, je hurle.
Lev prend le couteau dans l'évier et lui met sous la gorge.
Ah, tu veux me tuer? Allez, amuse-toi, tue-moi, vas-y, éclate-toi. T'es fou, t'es fou, t'es fou.
Scène 10, 18h26.
Mais elle revient ou quoi?
J'en sais rien, putain.
Elle était enragée cette fois.
Moi, j'étais enragé.
Ah oui, enragé, tu voulais la tuer?
Ben non.
Avec ce couteau et puis tous ces discours.
Je l'aurais jamais tué.
La hache sous le lit, je l'ai pas oublié ça. Tu disais que je voulais la tuer, que je devais le faire. Mais t'allais la tuer, toi.
J'allais pas la tuer.
Elle avait vraiment peur que tu la tues, et moi aussi, j'en étais sûr.
Je voulais lui faire peur. Je déteste quand elle crie.
Toi, t'avais peur. De toi-même.
Mais de quel côté t'es ?
Moi ? Du mien ?
Fais pas le malin.
Le malin ? Qui me disait de pas faire le malin ?
Moi, je te le dis.
Qui me disait de pas faire mon petit malin ?
Mais tu m'écoutes ou quoi ?
Moi, j'écoute tout le monde. Mais toi, tu ne te souviens pas de ce que tu dis. La hache sous le lit. J'écoute, moi.
Alors ouvre grande tes oreilles.
La hache sous le lit.
Je dois partir.
Libère-toi, libère-toi. La mort des autres te libère. Tu vas où ?
Loin, près de la maison.
Tu vas voir maman ?
Je vais m'engager dans l'armée.
Tu passes pas par la maison ?
Non.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? Depuis quand tu veux être militaire ? Pour tuer tout le temps ? Pour t'entraîner ?
Mais non, j'aime pas ça du tout.
On fait les valises ?
Je fais ma valise.
Je ne viens pas. On part pas ensemble ? Qui s'occupera de toi ?
Dario Fo, né à San Giano près de Varese, est un écrivain italien, dramaturge, metteur en scène et acteur, ce qui en fait un homme de théâtre complet. Il est décédé en 2016. En 1997, il reçoit le prix Nobel de littérature. Connu pour ses engagements politiques libertaires, Dario Fo est l'un des dramaturges italiens les plus représentés dans le monde, avec Goldoni. Le style de Dario Fo perpétue la tradition de la commedia dell'arte, des clowns italiens et de la farce médiévale. L'improvisation, le déluge verbal, l'onomatopée, la performance physique et l'enchaînement de gags fondent les principales caractéristiques de ses pièces. L'utilisation de parler populaire, d'accents régionaux et de formules idiomatiques occupe également une place centrale. Dans la pièce « Faut pas payer », les prix ne cessent de grimper. Une centaine de femmes d'une banlieue ouvrière ont envahi un supermarché, raflé des produits alimentaires sans passer par la caisse. Très vite, la police les poursuit jusque dans les escaliers des grands ensembles.
Antonia.
Ah, c'est une chance que je t'ai rencontrée. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait pour transporter tout ça.
Margherita.
Je voudrais bien savoir où tu as trouvé l'argent pour l'acheter, tout ça.
Ce matin, je descends faire mes courses. C'était le jour de la vente sauvage, la vente par les militants. Rien qu'en pensant à tout ce que j'allais pouvoir acheter avec le peu d'argent qui me restait, j'en avais l'eau à la bouche. Je n'étais pas la seule. Il y avait toutes les femmes du quartier. 1000, 2000, je ne sais pas, une marée de femmes. Quand tout à coup, les flics, la police des marchés. C'est interdit, ils font. C'est interdit, réquisition. Toute cette marchandise du bon Dieu qui nous passe sous le nez. Ça nous a mises dans une rage. On a vu rouge. Ah, c'est comme ça, ils nous prennent tout. Eh bien, on va au supermarché et on les oblige à nous faire les mêmes prix que les militants. Nous allons en cortège au supermarché, on entre, le gérant. Vous êtes folle, ce n'est pas à moi qu'il faut vous en prendre, c'est la direction qui décide les rabais et les augmentations, qui les décide? La direction, bien sûr, le commerce est libre, non? La concurrence aussi. La libre concurrence contre nous, oui, c'est la bourse ou la vie. Et nous devrions laisser faire? Vous êtes des bandits, j'ai crié. Après, je me suis cachée.
Bravo!
Alors, il y en a une qui a dit, cette fois, ça suffit. Vous allez faire les mêmes prix que les militants. Et n'essayez pas de montrer les dents. Sans quoi on part, sans payer la queue d'un sou. Tu aurais vu le gérant, il était vert. Vous êtes folle! J'appelle la police! Il est allé au téléphone de la caisse, il a décroché le récepteur. Malheureusement, le téléphone ne marchait pas. Quelqu'un avait eu l'idée de couper les fils. « Laissez-moi passer, je vais aller dans mon bureau !» Nous, on serrait les rangs pour l'empêcher de passer. Lui, il commence à pousser. Une femme fait semblant d'avoir attrapé un coup de poing dans le ventre, se laisse tomber par terre de tout son long et évanouit. Avec un naturel. Oh, c'était une artiste, celle-là. Il y avait une grosse dondon terrible, une femme âgée. Elle a levé un doigt, qu'on aurait dit un fusil. Elle l'a pointé entre les yeux du gérant. « Lâche, elle lui fait. Tu t'en prends à une pauvre femme. » qui est peut-être enceinte. Si elle perd son gosse, tu vas voir. On te fait mettre en tôle, assassin. Et nous en cœur, infanticide. Oh, on était pliés en deux de rire.
Et pour finir?
Pour finir, ce ballot de gérant a fait ce qu'on lui a dit de faire. Il a mis la marchandise au même prix que les militants. Tout à coup, la police. C'était une fausse alerte, heureusement. Mais on a toutes détalées. Il y en avait qui lâchaient leur paquet, d'autres qui se mettaient à pleurer. Du calme, du calme. Ça, c'était des ouvriers qui arrivaient de l'usine d'à côté. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez la colique à l'idée que les flics arrivent? Vous êtes dans votre droit. Vous réclamez de payer le juste prix. C'est comme une grève. C'est même mieux qu'une grève. Parce que les grèves, ça fait perdre leur salaire aux ouvriers. Tandis que pour une fois, c'est seulement les patrons qui y perdent. Bon Dieu, il y a même mieux à faire. Faut pas payer. Comment? On a dit. Faut pas payer? On était un peu excités. Ne pas payer? On avait déjà payé. Vous allez voir comment on fait. Ils se précipitent aux étalages, ils prennent la marchandise, ils la mettent dans les sacs du supermarché et ils interpellent le gérant, qui était toujours aussi vert et qui avait même rapetissé. Ça compensera tout le fric que vous nous avez volé depuis le temps qu'on vient faire nos courses chez vous. Et ils continuaient à prendre de la marchandise plein les bras. Moi, j'ai réfléchi. J'ai pensé très fort, j'ai résisté un peu, et puis j'ai recommencé mon marché. La femme évanouie est aussitôt revenue à elle. « On ne paie plus, on ne paie plus !» Et tout le monde, « On ne paie plus, on ne paie plus !» On aurait dit la prise de Rome. Entre-temps, la police, la vraie, est arrivée pour de bon. Une marée de flics. J'avais le cœur prêt à éclater. Nos jambes qui tremblaient, nos sacs qui tremblaient avec nous. Mais il n'y en a pas une qui est flanchée. À un moment, sur un signe des ouvriers, nous sommes sortis du supermarché avec un air si décidé, avec des mines si honnêtes, on aurait cru des ministres qu'on vient de prendre la main dans le sac. On est passé entre les ouvriers qui avaient formé des cordons pour qu'on arrive tranquillement jusqu'au tram.
C'est merveilleux.
Ah, merveilleux, c'est peu dire. C'était enthousiasmant. Pas parce qu'on a emporté de la marchandise sans payer. En vérité, c'était aussi un peu pour ça. Mais surtout parce qu'on a fait tous ensemble quelque chose de juste. Les hommes et les femmes contre les patrons. Ils seront bien obligés d'en tenir compte, ces voleurs, d'une opération de ce genre.
Mais qu'est-ce que tu vas raconter à ton mari?
Giovanni va me faire une scène. Je crois l'entendre. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as déshonoré. J'ai toujours payé jusqu'au dernier centime. Pauvre mais honnête. Il va se monter et s'enfermer dans l'armoire.
Non.
Si, à chaque fois que nous avons une scène, il s'enferme. Il est bien organisé, sa petite lampe, son tabouret, son livre. Il n'ouvre que pour m'injurier. Je veux pouvoir marcher la tête haute.
Les deux premiers textes que vous venez d'entendre ont été enregistrés dans les locaux de Jet FM 91.2 par les lecteurs Brigitte Gaillard, Daniel Rialan, Alain Briet, Jacques Cassard et moi-même pour les Didascalies. L'extrait de la dernière pièce, Faut pas payer, a été enregistré par les lecteurs de la troupe théâtrale sonore Des voix dans la nuit en 2014. Vous pourrez réécouter cette émission le quatrième mercredi de ce mois et très bientôt en podcast. Le mois prochain, nous recevrons Monique Hervouette de la compagnie Banquet d'Avril. Elle nous parlera de son métier de metteuse en scène et de son actualité théâtrale. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un beau mois de novembre et je vous dis au mois prochain.